Et au verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, Jésus dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Voilà, dans une réunion évangélique comme celle-ci, une double responsabilité s'exerce. D'abord, il y a la responsabilité du prédicateur qui est engagé. Sa responsabilité consiste à annoncer, comme il est dit dans ce texte, la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu, et on pourrait ajouter rien que la parole de Dieu. C'est-à-dire le message de l'Évangile dans sa pureté, sa vérité, son intégralité. Et bien sûr, le prédicateur ne doit pas déformer ce message, ne doit pas en tordre le sens, ne doit pas non plus l'édulcorer. Le prédicateur, quand il a terminé sa prédication, doit pouvoir dire à ses auditeurs, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je suis donc pur du sang de vous tous. » Et pour que cette responsabilité du prédicateur soit correctement assumé de sa part, eh bien, il faut qu'il avertisse ses auditeurs en leur disant, sans violence, mais en toute sincérité, qu'ils sont des pécheurs devant Dieu, parce qu'ils ont enfreint les lois divines et ils ont, ces auditeurs, désobéi à ses commandements dans bien des occasions. Il doit leur dire, à ses auditeurs, le prédicateur, que cette désobéissance entraîne de leur part leur culpabilité et que s'ils demeurent dans cet état, cette situation, cette condition de pécheurs, de coupables, la colère de Dieu les atteindra immanquablement et au jour du jugement, car jour du jugement il y aura, eh bien Dieu, dans sa justice, décrétera que leur part aux pécheurs impénitents sera d'être rejetés pour toujours loin de Dieu et livré à des tourments extrêmes et sans fin. Mais le prédicateur doit aussi faire connaître à ses auditeurs qu'il y a un moyen, alléluia, d'échapper à ce sort tragique, à cette horrible destinée. Et c'est en cela que l'Évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, l'Évangile, donc, que nous sommes chargés d'annoncer, eh bien, nous apprend que le moyen pour être sauvé, pour ne pas subir la condamnation et le châtiment éternel, c'est la foi en Jésus-Christ. Et seulement la foi en Jésus-Christ. En lui, en Dieu le Père, évidemment, et en personne d'autre, parce que c'est lui qui a été, n'est-ce pas, établi comme intermédiaire exclusif entre Dieu et les hommes. En effet, Jésus, nous dit la Bible, est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Comment a-t-il fait pour sauver les pécheurs? Comment a-t-il fait, comment s'y est-il pris pour mettre à la disposition de chacun d'entre nous, vous, moi en l'occurrence, eh bien ce salut, cette grâce? Eh bien, il a réalisé cette œuvre en se chargeant lui-même de nos péchés, de vos péchés, et en subissant à votre place, en votre faveur, en lui-même, le courroux, la colère de Dieu, pour qu'elle ne tombe pas sur vous, pour qu'elle ne vous atteigne pas au jour du jugement. Eh bien, le jugement, la condamnation, la colère et le courroux de Dieu sont tombés sur lui, sur Jésus, le Fils de Dieu, qui s'était volontairement chargé de nos péchés pour en subir la peine. Ça, c'est l'Évangile, voyez. Et il suffit donc, parce qu'il y a ce que Jésus a fait, et puis il y a ce que nous avons à faire en retour. Il suffit donc, pour bénéficier du salut, de la grâce, de la faveur, de la miséricorde de Dieu, il suffit de se reconnaître pécheur. Ben oui, de l'avouer, de le confesser le plus sérieusement du monde, non pas un ecclésiastique, un homme de religion, mais de le confesser le plus sérieusement du monde à Dieu lui-même, en lui demandant pardon. Est-ce si difficile que cela? De concevoir, chers amis, que vous avez offensé Dieu. Et qu'à ce titre, eh bien, vous vous devez de lui dire tout simplement, Seigneur, pardon. Je regrette profondément, je suis confus, je m'en humilie devant toi. Oui, j'ai fauté, j'ai péché, je désobéis à ta parole 100 fois plus d'aucune, des fois consciemment, des fois par ignorance. Mais Seigneur, cet état de péché, de pécheur qui est le mien, je te le confesse et je te prie de me faire grâce. Voilà. Et puis j'accepte de croire que dans ton amour pour moi, Père éternel, tu as donné en ma faveur ce que tu avais de plus cher, de plus précieux, Jésus qui est mort tout exprès pour que, eh bien, en lui et par la foi en lui, je puisse, moi, pécheur, bénéficier de la grâce, de la miséricorde, du pardon, de la bonté de Dieu et être désormais promis pour le ciel. Voilà, je vous ai tout dit. Ma responsabilité à moi, elle est dégagé. Maintenant, s'il y a la responsabilité du prédicateur, et je viens de vous expliquer en quoi elle consiste, n'est-ce pas? Il y a une autre responsabilité. C'est la responsabilité des auditeurs. En l'occurrence, vous-même qui êtes dans ce lieu cet après-midi. Et la responsabilité des auditeurs, vous donc, chers amis, eh bien, consiste à prendre garde à cette parole que vous venez d'entendre. Parce que cette parole n'est pas notre parole. Ce message n'est pas notre message. C'est la parole de Dieu. Nous ne sommes, nous, que les messagers. Nous sommes, nous, que, comme dit le texte que nous avons lu tout à l'heure, les semeurs de la bonne semence, de la bonne parole, n'est-ce pas? Et il vous convient d'entendre, de mettre en pratique sur le champ cette parole, vous repentant immédiatement de vos péchés et mettant votre foi en Jésus sans plus attendre. Ça, c'est votre fonction, c'est votre responsabilité, c'est votre devoir. C'est ce à quoi Dieu veut vous amener. Et dans le texte que nous avons lu, dans ce passage, eh bien le Seigneur, car c'est Jésus qui a donné cette parabole, cette histoire, nous informe qu'il y a quatre catégories d'auditeurs. Quatre catégories d'auditeurs. Je les appellerai les désinvoltes, les superficiels, les inconscients et les lucides. Les désinvoltes, les superficiels, les inconscients et les lucides. Les désinvoltes, ce sont ceux, nous explique Jésus, qui ne prennent pas garde à cette parole. Ils n'y portent pas l'attention qu'elle mérite. Ils ne comprennent pas, peut-être faut-il dire, ils ne veulent pas comprendre, ces gens-là, les désinvoltes, que leur sort, leur destinée éternelle dépendent de leur attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, du fait de leur désinvolture, le diable vient. Et oui, le diable vient. Parce qu'il assiste à la réunion, lui. Vous voyez ? Il vient dérober, enlever, extraire cette parole qui vient d'être annoncée du cœur de ces gens-là, les désinvoltes. Que Dieu, parole que Dieu aurait voulu implanter dans leur cœur. Et ainsi, laissant au diable la possibilité d'ôter de leur cœur la parole de Dieu, ces gens-là, les désinvoltes, se privent des effets bénéfiques qu'aurait eu pour eux cette parole parce qu'ils l'ont méprisée, vous voyez ? Dieu aurait voulu les sauver. Alléluia, parce que Dieu aime tous les hommes. Et l'Écriture dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais la Bible dit aussi qu'il y a des gens qui, par leur attitude, ont annulé à leur égard le dessein, c'est-à-dire le projet de Dieu. Dieu avait le projet, Dieu avait le désir, Dieu avait, comment dire ça, l'ambition, n'est-ce pas, de les sauver, de leur faire grâce, de leur faire miséricorde, de faire en sorte que même s'ils comptent parmi les pires des pécheurs, ils puissent être pardonnés et finir un jour leur course dans le ciel. Mais par leur attitude de désinvolture, parce qu'ils ont méprisé cette parole, parce qu'ils n'y ont pas porté l'attention qu'elle méritait, ils se sont privés de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Ça, ce sont les désinvoltes. Et puis, il y a les superficiels. Alors, les superficiels, ils s'enthousiasment sur le champ, vous voyez ? Ce sont des impulsifs, voilà. Ils sont dominés par leurs émotions, hein. Ils sont un coup très haut et un coup très bas, voilà, dominés par leurs émotions. Mais il n'y a pas chez eux, chez ces gens superficiels, de réflexion de fond. Alors, cet engouement qu'il manifeste pour la parole de Dieu dans un premier temps, cet engouement est passager. Leur foi est temporaire. Jésus dira là, ils croient, oui, mais pour un temps seulement. Or, mes amis, ce qui fait la valeur de la foi, c'est sa permanence, c'est sa durée. Parce que Jésus lui-même dira que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, qui sera sauvé. Il croit pour un temps, mais dès qu'un problème surgit, une difficulté, un désagrément, quand on les a critiqués parce qu'ils font profession d'être chrétiens, ils renoncent, ils se lassent, ils se découragent et ils abandonnent la partie. Ils n'ont pas compris une chose, c'est que la Bible dit que c'est par beaucoup d'épreuves et de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est ainsi. Le salut n'est pas pour les gens légers. Le salut n'est pas pour les gens superficiels, inconstants, mais pour ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui y persévèrent. Voulez-vous être sauvé ? Telle est la question. Voulez-vous finir un jour votre course dans le ciel ? Et ce désir est-il un désir permanent, ardent, qui embrase votre vie tout entière et qui fait que vous avez compris que quand même, eh bien, il y a un but suprême à atteindre le royaume des cieux. Et pour cela, êtes-vous prêt, avec la grâce et le secours du Seigneur, à aller jusqu'au bout du parcours? Pas faire un bout de chemin avec Jésus, mais aller jusqu'au bout du chemin avec Jésus. Et puis, il y a une autre catégorie encore d'auditeurs, n'est-ce pas? Ce sont les inconscients. Voilà. Eux, ils ont d'autres centres d'intérêt que la parole de Dieu, autres centres d'intérêt qu'ils jugent à tort comme étant prioritaires. Et c'est en cela qu'ils sont inconscients. Voyez, Jésus dit, ces gens-là, ils laissent étouffer la parole par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Voilà leur objectif, voilà leur principe de vie, voilà leurs ambitions, leurs désirs, voilà vers quoi tend toute leur existence. Les soucis qu'il n'en a pas, les richesses, l'accroissement de leurs possibilités financières, matérielles, et les plaisirs, la vie, s'amuser, profiter, n'est-ce pas? Voilà, mangeons et buvons parce que demain, nous mourrons. Quelle erreur! C'est de l'inconscience. Parce que rien n'est plus important, je voudrais tellement que vous en soyez persuadés, rien n'est plus important que d'assurer notre avenir éternel par la foi en Jésus-Christ. Jésus l'a dit très clairement, il a dit, mais que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous vous rendez compte? Gagner tout le monde, personne n'y est jamais arrivé. Hein. Aucun conquérant, si grand fut-il, dans le cours de l'histoire, n'est parvenu à conquérir, à gagner tout le monde. Ni Alexandre le Grand, ni Jules César, ni Napoléon, ni je ne sais pas qui encore, ne sont pas parvenus. Mais quand bien même ça arriverait, quand bien même vous serez celui-là, chers amis, si par ailleurs votre âme est perdue, eh bien c'est un échec complet. Parce que ce qui détermine la valeur d'un homme, eh bien, ou d'une femme, c'est ce que sera son sort dans l'éternité. Vous savez, nous vivons dans une société qui privilégie le matérialisme, hélas. Ce qu'on voit, ce qu'on touche. Or, l'Écriture, la Bible nous dit que les choses visibles, elles sont passagères. Tandis que les invisibles, elles sont éternelles. Vous voyez? Et que nous devons nous attacher à ces choses invisibles. Bien sûr qu'il faut vivre la vie sur la terre. Être chrétien, ce n'est pas être un doux rêveur qui vit, je ne sais pas moi, d'amour et d'eau fraîche. Hein? Il faut avoir le sens des réalités, travailler, se lever le matin pour aller au boulot, assumer ses responsabilités familiales, professionnelles, sociales, etc. Et mes amis, au-delà de ces réalités, de ces contingences humaines légitimes, normales, il y a ce qui est supérieur, ce qui est plus grand, encore plus important, l'éternité qui nous attend. Si c'est vrai, et je pense que si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous pensez au moins un temps soit peu que c'est vrai. Si c'est vrai qu'il y a un enfer à fuir et qu'il y a un ciel à rejoindre, mes amis, ça doit être l'objectif prioritaire de votre vie. De votre vie. Et pour cela, pour atteindre cet objectif, Dieu ne vous demande pas de faire des efforts considérables. Il vous demande de mettre votre foi en Jésus et en Jésus seulement. Vous approchant de lui pour qu'il vous fasse miséricorde. Ah, parfois, n'est-ce pas, on sait qu'il y a dans notre vie un obstacle. Ah, si je me convertis à Christ, eh bien je ne pourrais plus faire ceci ou je ne pourrais plus faire cela. Et cela nous empêche de prendre la bonne décision, mes amis. Ces obstacles que le diable a mis en travers de votre chemin, je vous en prie, balayez-les d'un revers de main. Et dites, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de recevoir la grâce du Seigneur. Ce n'est pas ça qui va m'éloigner du Seigneur. Je renonce à cette affaire. Je tire un trait sur ce comportement qui nuit à mon âme. Et je m'applique à recevoir le meilleur. Alors, n'est-ce pas, nous l'avons dit, nous l'avons dit, il y a tout cela, n'est-ce pas? Il y a les inconscients, mais il y a aussi les lucides. Les lucides, ce sont ceux qui ont la bonne attitude. Ils réagissent favorablement et durablement à l'appel du Seigneur. Ils s'attachent à cette parole, salvatrice. Et ils comprennent que cette parole constitue en quelque sorte pour leur vie l'encre de leur âme. Et cette encre va leur permettre de faire face aux tempêtes de la vie. Et un jour, finalement, eh bien, ils arriveront à bon port. Amen. Malgré les tempêtes essuyées en cours de parcours. Si vous interrogez les chrétiens qui sont là, chers amis, ils vous diront que depuis qu'ils se sont convertis, la vie n'a pas été forcément un long fleuve tranquille. Il y a eu des combats, des épreuves, des drames parfois. Les larmes ont coulé. Mais le Seigneur a toujours été là. Alléluia. Et dans les pires moments, dans les temps les plus difficiles, il nous a toujours tendu une main secourable. Alors les lucides, ils ont compris ça. Et ils s'attachent de tout leur cœur à cette parole, qui est chargé d'assurer leur salut, n'est-ce pas? Coûte que coûte, avec la grâce de Dieu qui les secourt, hein, ils sont déterminés à rester fidèlement attachés au Seigneur. Je dis tout à l'heure, Dieu ne nous donne pas d'accomplir des exploits pour être sauvés. Il sait que nous en sommes incapables. Ce qu'il y avait de plus difficile à accomplir, mais c'est lui qui l'a accompli en donnant sa vie sur la croix. Un point, c'est tout, n'est-ce pas? Mais il nous appartient de nous attacher à lui. Vous savez, je fais référence souvent à ce passage des Écritures où il est question d'un certain nombre de disciples, en tout cas de gens qui prétendent l'être, qui pendant un temps ont suivi Jésus, et puis Jésus un jour a eu une prédication particulièrement musclée, particulièrement tranchante, rigoureuse, exigeante. Et ces gens-là ont dit, ouh là là, cette parole est dure. Bon, on ne peut pas supporter ça. Et dès lors, il n'allait plus avec eux. Et Jésus s'est retourné vers les 12 apôtres en leur disant, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Pierre, que j'aime beaucoup, l'apôtre Pierre a eu cette réponse remarquable. Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, il n'avait pas tout compris, Pierre. Il était plein de maladresse, plein de faiblesse, mais il savait ce qu'il voulait. Il voulait y arriver, et par la grâce de Dieu, il y est arrivé. Amen. Eh bien, qu'il en soit ainsi, chers amis, pour vous. Vous savez quoi? Dès à présent, votre responsabilité est engagée. Pourquoi? Parce que vous avez entendu la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'au jour du jugement, c'est cette parole qui nous jugera. C'est cette parole que nous aurons entendue précédemment lorsque nous aurons vécu sur la terre qui, par rapport à l'attitude que nous aurons eue à son égard, déterminera notre sort éternel. C'est aussi simple que cela. Si cette parole, nous l'avons acceptée, reçue, si nous y avions persévéré, alors ce sera le ciel que nous aurons en partage. Sinon, malheur à nous, ce sera la perdition et Dieu nous dira, tu savais ce qu'il fallait faire? Et tu ne l'as pas fait. Tu savais que tu devais te repentir de tes péchés. Tu savais que tu devais mettre ta foi en Jésus. Tu t'y es refusé. Tu es donc perdu. Perdu pour l'éternité. Chers amis, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Et que vous soyez partie prenante de ces gens que j'appelle les lucides. Qui, comme dira Jésus, n'est-ce pas, entend la parole avec un cœur honnête et bon. Sincère, vrai, authentique, quoi. La retiennent, s'y attachent et portent du fruit. Quel fruit? Un fruit d'obéissance, de foi, d'amour envers Dieu. Et portent du fruit avec persévérance. Qu'il en soit ainsi et qu'ainsi, un jour, le Seigneur puisse vous accueillir dans son royaume éternel. Amen. On prie le Seigneur quelques instants.